Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Ils et elles se retrouvent dès l'aube, de novembre à mars, dans les roselières du Scamandre, pour avoir la chance d'observer l'envol des grues, quittant leur dortoir pour se diriger vers leur lieu de gagnage. 4 mois à peine de grâce avant que ces célèbres migratrices, de plus en plus nombreuses à hiverner en Camargue, ne regagnent l'Europe du Nord pour se reproduire. Ce sont sans doute les mêmes qui se baladent le nez en l'air dès la fin mars, dans l'espoir de capter ce petit éclair noir qui signalera le retour des hirondelles, qui ponctueront de leurs cris perçants nos soirées d'été. Sarcelles, hérons pourprés, faucons, cresserellettes, les migrateurs exercent sur nous une fascination certaine que l'on peut facilement attribuer au mystère et à la magie sans cesse renouvelée de ces éternels retours. Alors, si les routes migratoires des oiseaux terrestres que je viens de citer sont depuis longtemps relativement bien connues des chercheurs et naturalistes, il n'en est pas de même des oiseaux marins et de leurs grandes odyssées intercontinentales, survolant parfois près d'une quarantaine de pays. Il serait pourtant grand temps que nos politiques de conservation s'intéressent à ces grands migrateurs pour tenter d'endiguer la vague d'extinction qui les menace. Pour fournir un cadre à la coopération internationale, des chercheurs et chercheuses ont établi une cartographie et identifié 6 voies de migration marine à travers les océans du monde. Une étude interespèce inédite à laquelle a participé notre invitée. Nous l'avions déjà reçue il y a 2 ans à son retour de la COP15 sur la biodiversité. Elle poursuit aujourd'hui sa thèse au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Marie-Morgane Rouillet est avec nous en studio.
Bonjour.
Bonjour,
merci pour l'accueil.
Et bienvenue dans Allume la science. C'est un drôle d'oiseau à n'en pas douter, mais elle ne migre pas et revient chaque semaine sur Divergence FM. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous poursuivons notre immersion à l'IRES, l'Institut de recherche pour l'enseignement des sciences. Et cette fois, nous nous intéressons aux mathématiques avec Louise Nissen, sa co-directrice spécialiste en théorie des nombres. Enfin, notre invité de dernière minute, ou plutôt nos invités de dernière minute, nous viennent de l'Association amicale des étudiants en pharmacie. Ils nous parleront du colontour. Oui, vous avez bien entendu, le colontour qui transite donc cette année sur le campus de pharmacie. C'est une programmation très éclectique dans Allume la science cette semaine et c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors, Marie-Morgane Rouillet, dans cette étude, vous vous êtes concentrée sur les oiseaux marins dits pélagiques. Vous avez exclu les espèces côtières. Donc d'abord, quelle est la différence entre les deux, pélagiques et côtiers ?
Oui, alors en fait, les oiseaux pélagiques, ce sont des oiseaux qui vont utiliser le large, les côtes, donc les côtiers vont être ceux qui vont rester près de la côte et les pélagiques sont ceux qui vont utiliser l'océan plus au large, plus loin.
D'accord, la haute mer.
La haute mer.
Et donc pourquoi est-ce que vous avez retenu que les pélagiques ?
On a retenu que les pélagiques parce qu'en fait, beaucoup des oiseaux côtiers qui vont utiliser les voies de migration qu'on connaît déjà au niveau terrestre, qui sont des voies de migration bien identifiées depuis plusieurs années. Et en fait, ces oiseaux vont utiliser la partie complémentaire marine de ces voies de migration. Donc on s'est focalisé sur les voies qui n'étaient pas encore vraiment cartographiées pour les oiseaux marins.
Et vous avez retenu au final 6 familles d'oiseaux. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ?
Oui, alors on a retenu 6 familles. Donc il y en a qu'on ne connaît pas très bien. Donc par exemple les phétons qui sont des oiseaux qui n'existent seulement que dans les tropiques. On a également les pétrels tempêtes qui sont des petits oiseaux qu'on voit parfois lors des tempêtes quand elles sont ramenées sur la côte, mais qui sont en fait des oiseaux très marins.
Pétrels tempêtes, c'est joli à chaque fois les noms d'oiseaux, c'est incroyable.
On a aussi de l'autre côté les albatros qui eux sont beaucoup plus grands avec l'envergure la plus grande connue pour les oiseaux de plus de 3 mètres. Les pétrels et les puffins qu'on peut parfois observer au large même des côtes françaises. Les mouettes, les sternes, qui certaines espèces vont être vraiment très migratrices, mais pas toutes. Et une autre famille qui s'appelle les labs, qu'on connaît un petit peu moins en France.
Vous insistez beaucoup sur le côté multi-espèces justement de cette étude. Pourquoi est-ce que c'est important ?
C'est important parce que si on veut identifier des routes de migration qui sont qui sont cohérentes à l'échelle internationale, qui peuvent favoriser les efforts de conservation. On a besoin de rassembler un peu toutes les espèces ensemble et de comprendre, de prendre un peu de recul et de comprendre quelles sont les voies importantes pour toutes ces espèces, pour pouvoir favoriser les collaborations aussi au niveau international et au niveau écologique, aussi savoir s'il y a de ressemblances entre les espèces ou non.
Alors les migrations, elles s'effectuent donc dans quatre bassins océaniques, l'Atlantique, l'Indien, le Pacifique et l'Austral. Alors déjà, est-ce que tous les oiseaux marins sont concernés par ces migrations ?
Alors, tous les oiseaux, pas tous les oiseaux marins migrent. Certains sont sédentaires, donc certains vont rester plutôt près des côtes ou même plutôt en mer, mais ne vont pas bouger dans toute l'année, ne vont pas bouger au cours de l'année. Et on a aussi des migrations qui vont être plus courtes. Donc il y en a qui migrent loin et d'autres qui migrent moins loin.
Alors justement, vous, vous êtes intéressé à ce qu'on appelle les migrateurs complets. Qu'est-ce qui les caractérise ? Il y a des migrateurs incomplets ?
Alors, on appelle les migrateurs complets, c'est ceux pour qui la majorité des individus en fait vont effectuer une migration, donc c'est-à-dire un déplacement entre l'aire de reproduction et l'endroit où souvent ils vont passer l'hiver, donc l'aire de non-reproduction. Et ce sont donc en fait il y a les migrants partiels où certaines, où il y a seulement une partie de l'espèce qui va migrer, il y a beaucoup plus de flexibilité par exemple.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des migrations plus ou moins longue distance. À partir de quelle distance on considère que c'est un oiseau migrateur longue distance ?
Alors ça, c'est évidemment un seuil qu'on a dû un peu établir parce que il y a en fait un gradient de migration chez les oiseaux qui est plus ou moins long. Nous, on a établi que à partir de 2000 km, donc ce qui est comme une vraiment des
c'est
longues
pas
distances.
Mal.
On était sur des oiseaux en fait qui suivaient des voies de migration de longue distance.
Et alors ils font le chemin à l'aller au retour. Est-ce qu'ils empruntent toujours la même voie sur ces deux trajets ?
Non. Alors déjà il peut y avoir des variations en fait entre les individus qui vont pas forcément utiliser la même voie chaque année. Et en plus à l'aller au retour ils vont pas forcément utiliser la même route de migration non plus.
Alors, on l'a dit en introduction, une grande partie de ces oiseaux marins sont menacés de disparition, d'extinction en tout cas. On sait à peu près quelle proportion. On verra tout au long de l'émission que ça diffère d'une zone à une autre, mais globalement.
Alors, on sait que 30% des espèces sont listées comme espèces menacées. On en a 50% si on considère aussi ceux qui sont presque menacés. Et ça représente en fait 50% des espèces qui ont des populations en déclin. Donc, c'est vraiment un groupe d'oiseaux qui est vraiment extrêmement menacé.
Alors on comprend que le fait de s'intéresser aux migrations, ça permet justement, donc quand ils migrent, forcément ils survolent plusieurs pays, on va le voir, des fois jusqu'à presque 40 pays. Il faut organiser une coordination internationale. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grands traités, est-ce qu'il y a des instances qui s'occupent de ça ?
Alors oui, c'est très important, surtout pour des espèces comme ça qui vont fréquenter en fait les eaux de plusieurs pays et de plusieurs régions du monde. Et il y a des accords qui existent, donc notamment la convention de Bonn, qui est la convention sur les espèces migratrices, qui est un cadre mondial pour s'intéresser à la conservation des espèces migratrices. Alors, les oiseaux, jusqu'à présent, sont beaucoup mieux pris en compte, les oiseaux terrestres sont beaucoup mieux pris en compte dans ces accords-là. D'où l'intérêt aussi de cette étude pour montrer l'importance des oiseaux marins et favoriser la collaboration internationale.
Et oui, j'avais pas pensé. Quand ils sont, du coup, dans les eaux internationales, qui s'en occupe ?
Oui. Et bien là, c'est une excellente question aussi parce qu'au niveau international, dans les eaux internationales, on n'a pas encore de mécanismes de coordination qui existent. Alors, il y a plusieurs choses. La gouvernance océanique, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même des organisations qui ont des responsabilités, alors les organisations régionales des pêches ou les organisations régionales qui gèrent les ressources marines. Mais au niveau de la haute mer, on a un traité sur la haute mer qui a été négocié aux Nations Unies en 2023, qui a des chances d'être ratifié dans les prochains mois et qui pourra aider à la conservation des espèces en haute mer.
Alors on va rentrer un peu dans le détail de votre étude. Vous avez obtenu des données pour 3996 oiseaux de 51 espèces, de 64 colonies et dans 27 pays. Alors ces données, elles s'échelonnent entre 1989 et 2023. C'est pas vous qui les avez produites. Vous avez utilisé la base de suivi des oiseaux marins de BirdLife International. Est-ce que vous pouvez nous dire qui l'a créée et qui l'alimente cette base ?
Oui. Alors ça, c'est le succès de cette étude, c'est aussi le succès en fait de la mise en commun des données de recherche par des chercheurs qui viennent un peu de toute la planète. Donc ça, c'est vraiment formidable de pouvoir faire ça ensemble. Et en fait, ce BirdLab International, du coup, c'est un partenariat d'ONG qui ont des réseaux dans plein de pays du monde, donc des partenaires. En France, c'est la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Et c'est un partenariat d'ONG qui sont mis ensemble pour favoriser la conservation des oiseaux. Cette base de données, elle regroupe du coup des données depuis une vingtaine d'années, en fait, des chercheurs qui ont pu les mettre en commun et qui est hébergée chez BirdLife International.
Mais alors justement, comment elles sont obtenues ces données? On parle de progrès technologique pour mieux les connaître, ça veut dire que concrètement on les suit comment? Il y a des capteurs, ils ont des GPS, qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors du coup, comment on fait pour suivre un oiseau marin en pleine mer? C'est une très bonne question. Du coup, les chercheurs en général vont aller dans les colonies, vont mettre des petites balises. Donc ça peut, il y a différents types qui existent, mais ça peut être des GPS par exemple, qui vont fournir des données, parfois en temps réel. Parfois, on va utiliser des balises un peu plus petites qui vont pouvoir nous permettre de suivre les oiseaux tout au cours de l'année. Et qui ont des niveaux de précision plus ou moins élevés, mais qui vont nous permettre en tout cas d'avoir une connaissance de ces oiseaux. Et en fait, quand les oiseaux vont revenir à la colonie l'année suivante, on va pouvoir récupérer ces balises pour celles dont on a besoin et extraire les données. Et ensuite, ces données sont celles qui sont stockées dans cette base de données de tracking, de suivi des oiseaux marins.
Alors, vous avez regroupé les individus donc suivant des itinéraires similaires, indépendamment de l'espèce et de la période de migration. Pour ça, vous avez utilisé une approche de clustering dynamique par déformation temporelle. C'est la question méthodo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Oui, alors, en essayant de rester simple, en fait, la manière dont on a procédé, c'est qu'on a pris toutes ces données de localisation. En fait, les balises, elles nous donnent des points de localisation, donc des trajets, en fait, pour chaque individu. Et on a séparé la migration aller de la migration retour, justement pour voir aussi si les oiseaux utilisaient des routes différentes. Et à partir de ces données, de ces trajets, on a essayé d'identifier les similarités entre les trajets de différents individus, que peu importe l'espèce et peu importe la période de l'année, en fait. Donc ce qu'on a cherché, c'est comment mettre ensemble des trajets qui étaient plus ou moins similaires. C'est l'idée générale de cette approche.
Alors, une petite dernière question méthodo. Vous avez aussi visualisé les routes de chaque groupe grâce à une analyse de densité de lignes. Ça consiste en quoi?
En fait, l'idée principale derrière ça, c'est que quand on a ces trajets qui se ressemblent, on essaie de savoir où sont les concentrations, où est-ce qu'il y a le plus de concentration de trajets similaires. Et ça nous permet d'avoir une idée des endroits où il y a le plus d'oiseaux qui vont passer, l'idée générale.
Alors on va passer au résultat bien sûr. Donc vous avez identifié 6 voies de migration marine dans les 4 bassins océaniques que nous avons cités, et dans ces voies vous identifiez des segments, en fait des sous-divisions. Ça veut dire que tous les oiseaux ne parcourent pas une voie de migration en totalité, en fait c'est qu'on peut additionner différentes migrations et ça vous donne un grand circuit, c'est ça?
Oui, alors en fait c'est très variable selon les espèces, donc il y en a qui vont suivre des segments de ces voies qu'on a identifiées, donc juste certains morceaux de voies de migration. Il y en a qui vont suivre les voies de migration complètement. Il y en a qui vont suivre les voies de migration dans un sens à aller et une autre voie de migration dans l'autre sens. Et il y a des espèces qui vont même utiliser plusieurs voies de migration. Donc il y en a à peu près tout qui existe.
Et dans la dimension pratique, il y a des espèces qui se mélangent ou c'est vraiment groupe par groupe et on ne se côtoie pas?
Non, si, il y a des espèces qui se mélangent, qui vont migrer à des périodes similaires. Après, il faut savoir que sur les surfaces océaniques, c'est vraiment des zones qui sont très larges.
C'est pas une autoroute, ouais.
Donc c'est pas une, voilà, c'est pas, et tout le monde va pas se suivre les uns derrière les autres.
Alors si on regarde de plus près dans un premier temps l'océan Atlantique, vous avez identifié une grande voie de migration là, c'est vaste justement. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
Oui, donc en fait c'est une voie qui était un peu connue déjà de certains mouvements des oiseaux marins dans l'Atlantique. Donc, qui a une forme de 8. On la voit bien. Donc, on a des espèces qui vont migrer, par exemple, de l'Europe vers l'Argentine. On a aussi des espèces qui vont l'entremêler un peu dans l'autre sens, qui vont migrer, par exemple, de la côte est des États-Unis jusqu'en Afrique du Sud. Et voilà, donc il y a des oiseaux qui partent un peu dans tous les sens.
Et on a une idée du nombre d'oiseaux, justement, qui se croisent sur cette voie-là? Enfin, du nombre d'espèces
Alors, le nombre d'espèces, enfin, ça va dépendre des segments, en fait, de cette voie de migration. Et le nom d'individu,
c'est,
je ne pourrais pas répondre.
Et par exemple, vous parlez, donner l'exemple du puffin de Scopoli. Est-ce que lui, vous pouvez nous décrire un peu mieux sa migration ? Où est-ce qu'il va ?
Oui. Alors, le puffin de Scopoli, c'est une espèce qu'on peut croiser sur les côtes françaises, en Méditerranée. Il se reproduit en Méditerranée. Et lui, du coup, après sa saison de reproduction, il va sortir dans l'Atlantique, dans l'Atlantique, et il va remonter parfois un peu vers le nord parce qu'il y a des zones très productives plus dans l'Atlantique Nord, et ensuite il va redescendre vers les côtes, jusque par exemple les côtes de l'Afrique du Sud. Voilà, il va revenir dans l'autre sens, et on pourra avoir la chance de le recroiser peut-être en Méditerranée l'année suivante.
Et c'est une zone sur laquelle il y a des forts enjeux de conservation, ce bassin atlantique ?
Oui, l'Atlantique, c'est un océan qui est très anthropisé, donc il y a beaucoup d'impacts cumulés des menaces humaines. On sait aussi qu'il y a beaucoup de pollution au niveau atlantique qui sont particulièrement importantes. Donc, mais bon, malheureusement, c'est le cas de plusieurs océans. Mais en tout cas, il y a un très fort impact de la présence humaine sur cet océan-là.
Alors, si on passe à l'océan Indien, vous distinguez deux voies de migration. Alors, la première, elle est plus au nord. En gros, très gros, parce qu'on est sur des grandes distances. Donc, la première, elle part de Madagascar, elle remonte vers les Maldives et elle s'approche de l'Indonésie. Et la seconde, elle est plus à l'est. Elle longe la côte africaine, justement, au-dessus de Madagascar. Elle remonte jusqu'à la péninsule arabique. Elle effleure la côte indienne et elle redescend. Alors, sur la première de ces voies, 40% des espèces sont menacées d'extinction. Et sur la deuxième, c'est 25% des espèces qui sont menacées d'extinction. C'est des chiffres qui sont quand même assez hallucinant. Là aussi, c'est toujours l'homme, la cause de ces menaces.
Alors oui, malheureusement, les oiseaux marins et en particulier les oiseaux menacés font face à de multiples menaces. On sait qu'en général, une espèce d'oiseau marin fait face en moyenne à 3 menaces. Les plus importantes sont les espèces invasives, donc les espèces qu'on a introduites sur les îles, parce que beaucoup de ces oiseaux se reproduisent sur les îles. Et donc là, ça va être des menaces plus terrestres qui ont la malchance de devoir affronter des menaces et terrestres et marines. Mais il y a aussi des menaces importantes en mer, notamment la capture accidentelle dans les filets de pêche ou dans les hameçons. Et le changement climatique et d'autres menaces, pollution, enfin, qui s'accumulent.
La pêche menace aussi les oiseaux, en fait.
Okay. Oui.
Alors, dans l'océan Pacifique, maintenant, vous observez aussi deux voies de migration. La première qui est composée de 3 segments et qui forme un 8 qui traverse latéralement le Pacifique. Il y a 17 pays qui se trouvent sur cette voie migratoire et 56% des espèces qui l'utilisent sont menacées d'extinction, comme par exemple l'albatros des Antipodes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour cette espèce-là, par exemple, pour le protéger, même si on connaît mieux ces voies de migration ?
Alors en fait, bah justement, on parlait de pêche, l'albatros, les albatros en général et l'albatros des Antipodes, en fait, c'est des espèces qui sont très menacées par les captures accidentelles dans les filets de pêche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des espèces qui vivent très longtemps, qui se reproduisent très tard et qui produisent peu de poussins. Donc c'est-à-dire que des adultes qui vont mourir dans la palangue, souvent c'est des lignes d'hameçons sur plusieurs kilomètres, on passe de pêche industrielle. Et donc les oiseaux vont suivre les bateaux, vont parfois se prendre dans les hameçons ou parfois rentrer en collision avec les engins de pêche. Et du coup des oiseaux qui meurent adultes pour ces espèces-là, c'est vraiment critique parce qu'on perd en fait les adultes reproducteurs qui vont pouvoir maintenir l'espèce. Donc les albatros ont vraiment eu un déclin très impressionnant dans les décennies passées à cause de ça. Donc une des actions importantes, par exemple, c'est d'améliorer la conservation de ces espèces à travers les organismes de gestion des pêches. Donc par exemple, dans le Pacifique, il y a des organismes qui sont en charge de gérer ces pêches-là, notamment sur les thons et des choses comme ça qui vont être producteur entre guillemets de décès d'albatros. Il faut vraiment pouvoir engager des dialogues avec ces organismes-là pour mieux mettre en place des mesures, et des mesures qui existent et qui marchent, pour réduire cette capture accidentelle.
Alors très rapidement, il y a une deuxième voie dans l'océan Pacifique qui chevauche celle-là 36 pays, c'était déjà pour lui dire c'est énorme. Donc elle part de la Sibérie et elle descend jusqu'à l'Australie, voire jusqu'à l'Antarctique. Cette voie, elle est un peu plus proche des côtes, elle longe un peu une voie déjà connue terrestre, c'est ça ?
C'est ça. Donc en fait, on a vraiment une voie de migration terrestre qui était déjà connue sur la côte pacifique. Et celle-là, c'est un peu la complémentaire, mais quand même beaucoup plus marine, qui va en fait faire le lien entre un peu l'Australie et le Japon. Et voilà.
Alors, dernière voie, c'est dans l'océan Austral. Cette fois, vous distinguez une voie de migration qui suit un mouvement qu'on appelle circumpolaire. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Oui. Alors, tout simplement, en fait, c'est des oiseaux qui vont faire le tour de l'Antarctique. Donc, c'est assez clair.
Et alors, ils font le tour essentiellement dans le sens des aiguilles d'une montre d'ouest en ouest. Pourquoi ils font ça ?
Oui. Alors ça, c'est en fait, c'est dû au vent dominant. Donc, en fait, les albatros sont des espèces qui vont pouvoir planer très facilement et donc ils vont dépenser très peu d'énergie en suivant les vents dominants. Donc ils vont suivre les vents dominants et migrer comme ça.
C'est une des réponses que vous fournissez aussi dans votre étude, c'est que finalement c'est les vents et les courants marins qui influencent beaucoup donc ces voies migratoires. Est-ce que le changement climatique et tous les changements qu'on observe aujourd'hui, ils sont en train de changer ces voies migratoires ?
Oui, alors pour l'instant non. Pour l'instant c'est des choses qui... Enfin, disons que étant donné les surfaces encore desquelles on parle, même s'il y a des changements, on n'a pas de changement dans les vents dominants pour l'instant ou de changement dans les courants marins. Le risque, c'est que les courants marins soient affectés par le changement climatique. C'est des études ont montré que c'était possible. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment ça pourrait impacter vraiment les écosystèmes, mais à partir du moment où les courants marins vont changer ou changent, là on devient vraiment sur des écosystèmes vraiment qui peuvent être vraiment impactés très fortement, et là c'est vraiment le risque où on ne sait pas si ça tiendra encore ce qu'on a étudié.
Alors une petite dernière question, c'est qui l'oiseau qui a la voie de migration la plus longue, le champion de la migration ?
Alors, on a la sterne arctique, alors elle qui peut migrer jusqu'à 70 000 km. Donc, c'est une espèce qui va se reproduire en Arctique, dans plusieurs pays en Arctique. Et en fait, une fois sa saison de reproduction passée, elle descend, par exemple, dans l'Atlantique. Elle va jusqu'en Antarctique où elle va passer...
Elle passe en voyage, quoi.
Un deuxième été, voilà. Deux étés par an.
Et votre étude, est-ce que elle a déjà interpellé les instances de conservation qui pourraient s'en saisir pour justement essayer de protéger un peu mieux ces oiseaux de toutes les menaces que vous avez décrites ?
Oui, alors on a la chance du coup d'avoir cette étude qui a été menée par BirdLife International, qui est vraiment actif dans les différentes instances de conservation, que ce soit avec les organismes de pêche ou que ce soit avec la Convention sur les espèces migratrices. Et là, c'est vraiment le travail sur lequel on essaie d'avancer, c'est que ces espèces d'oiseaux marins soient mieux reconnues au sein de cette convention pour qu'on puisse vraiment travailler. Donc BirdLife a participé l'année dernière à produire un rapport à cette convention. Ils vont revenir cette année et il y a un groupe d'oiseaux marins qui a été créé à la réunion de l'année dernière pour pouvoir essayer d'avancer sur ce sujet des espèces migratrices au sein de cette convention.
Un grand merci à vous, Marie-Morgane Rouillet. Et c'est pour quand la soutenance ?
Juillet.
Ça devrait bien se passer. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Nous sommes toujours à l'IRES, Aline.
Oui, toujours à l'Institut de recherche pour l'enseignement des sciences, donc à vocation à faire le lien entre les activités de recherche et les enseignements secondaires. Et cette fois, nous nous penchons sur les mathématiques avec Louise Nissen. Elle est co-directrice de l'IRES et mathématicienne spécialisée en théorie des nombres à l'IMAG. Et elle nous propose une approche des maths pas comme les autres. Des maths qu'on manipule, qu'on emboîte, qu'on découpe avec des résultats étonnants destinés à capter l'attention des plus jeunes et qui a aussi capté la nôtre d'ailleurs, et pourquoi pas à éveiller des vocations.
La semaine prochaine, le dernier volet de notre série sur l'IRES sera consacré à la chimie.
L'IRES, c'est un lieu où on a essentiellement deux types d'activités. Une activité qui consiste à produire des ressources pour les enseignants, donc on fait de la formation continue. Il y a une autre activité à l'IRES, c'est de faire de la diffusion, soit envers les publics scolaires, soit envers le grand public. Et dans ce cadre, on a toute une série d'expositions qu'on peut prêter aux établissements et qu'on va aussi montrer à la Fête de la Science. La manipulation que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un des stands de l'exposition de maths qu'on a. Les mathématiques avec la tête et les mains. C'est une exposition où il y a beaucoup d'objets à manipuler. La manipulation que je vais vous présenter consiste en fait à transformer un problème de calcul en un problème de géométrie. Donc là, j'ai une espèce d'escalier qui est fait avec des petits carrés.
Là, on est sur de la 2D.
L'étage inférieur de l'escalier est composé de 10 cases. L'étage juste au-dessus, il y a 9 cases. Et puis 8, 7, 6, etc. Et la partie la plus haute a
une seule case.
Et la question qu'on pose, c'est combien il y a de cases dans cet escalier. En fait, on ne la pose pas tout à fait comme ça, cette question. La vraie question qu'on pose au départ, le problème de calcul qu'on se pose, c'est combien valent 1 plus 2 plus 3 plus 4, et je vais additionner comme ça jusqu'à 10. Plutôt que de faire une addition à 10 nombres, on a décidé de fabriquer cet escalier. Et en fait, au lieu d'en fabriquer un, on en a fabriqué deux. Ils sont parfaitement superposables. C'est la même chose.
Donc, je confirme.
Ils sont faits avec le même nombre de cases. Plutôt que de compter combien il y a de cases dans un escalier, on va compter combien il y a de cases dans deux escaliers.
Et après, on divise par deux.
Voilà. Et alors, pour compter combien il y a de cases dans deux escaliers, on va les emboîter. Et si on les emboîte correctement, vous obtenez...
Un carré.
Presque. Vous voyez l'escalier qui est rouge, il a 10 cases de côté. Le jaune aussi. Donc, il y a un côté avec 10 et un côté... Avec 11. La façon dont on les a emboîtés fait qu'on obtient un rectangle qui fait 10 par 11. Et calculer combien il y a de carrés dans un rectangle de 10 par 11, ça, c'est facile, ça fait 110. Et ensuite, si on divise par 2, vous obtenez 55, bravo. Donc voilà, vous avez, juste en faisant une multiplication et en divisant par 2, comptez combien valent 1 plus 2, etc.
Moi, et après, fait l'erreur, instinctivement, j'aurais fait, quand vous avez commencé à l'assembler, j'aurais dit 10 par 10. Je ne sais pas si c'est commun comme erreur ou si c'est...
C'est tout à fait commun parce qu'on a un escalier qui fait 10 par 10, donc on imagine que ça va fabriquer un carré de 10 par 10. Donc, c'est pour ça, en particulier, qu'ils sont faits de deux couleurs différentes. C'est parce que ça permet aussi de visualiser ce phénomène. Donc en fait, ces objets, ils sont pensés pour que les gens voient les problèmes et se posent les bonnes questions.
Sur la table devant nous, on a une espèce de pyramide Inca avec trois couleurs, du jaune, du gris, du noir, et aussi deux quarts de pyramide. Quel est le problème qui justifie qu'on passe à la 3D ?
Mon quart de pyramide, vous voyez, il fait 8 étages. Et il faut imaginer que c'est construit avec des petites pierres cubiques. L'étage du haut, il est fait avec juste une petite pierre cubique. Le deuxième étage, juste en dessous, il est fait avec quatre petites pierres cubiques parce qu'on a un carré de 2 par 2. Mais vous voyez que déjà, on est en train de transformer ces calculs 3 x 3, 4 x 4, ben on fait des carrés. Et donc, à la fin, on a empilé nos 8 carrés comme ça. Alors là, je vais vous montrer comment je fais.
La pyramide est découpée en 4. Vous avez attrapé 3 des morceaux et vous en avez fait un cube.
Alors presque un cube. C'est comme un cube avec un escalier sur le côté, vous voyez ?
Et oui.
Alors, je vais faire un deuxième cube avec un escalier sur le côté.
C'est toujours le plus 1 qui revient comme sur le plan, alors.
Là, on a deux escaliers et ils s'emboîtent. On va le décrire comme un pavé droit, hein, avec que des angles droits. Et maintenant, le problème, c'est de compter avec combien de petits cubes il est fabriqué. Donc, on se souvient que la pyramide, c'est 8 étages. Donc, mon rectangle ici, la largeur mesure 8. La hauteur, si vous regardez en hauteur, vous retrouvez une pyramide, mais il y a un étage de plus.
Donc, 9.
Et en largeur...
On a 2 pyramides plus 1.
Exactement. Et ça, c'est important ce que vous venez de dire. On va y revenir plus tard. Donc, 2 pyramides plus 1, pour le moment, ça fait 8 et 8, 16. Et 1, ça fait 17. Du coup, le nombre de petits cubes utilisés, c'est 8 fois 9 fois 17. Et après, on divisera par 6 et on obtiendra le nombre de petits cubes qu'il y a dans une pyramide.
En fait, c'est le fait de passer sur un parallélépipède, j'arrive pas à le dire, rectangle, qui rend l'opération plus facile qu'avec des pyramides, en fait.
Voilà, avec les pyramides, c'est joli, mais c'est en fait, si vous demandez aux enfants de compter combien il y a de pierres dans une pyramide, ils ont beaucoup de mal parce qu'il y a plein de pierres qui sont cachées, donc ils n'arrivent pas à les toucher. Vous voyez, encore un problème de manipulation.
Et du coup, moi, il me manque la réponse. Ça fait combien ? 8 par 9 par 17 ?
Ça fait 1224. Je l'ai calculé de tête.
1224 petites pierres.
Par 6 pour avoir une pyramide ?
De tête aussi, ça fait 204.
Voilà. Donc maintenant, vous savez qu'il y a 204 pierres dans une pyramide.
Et alors, pourquoi on a divisé par 6 ?
Parce qu'il y avait 6, on a utilisé 6 pyramides pour construire le bloc. Comme tout à l'heure, on avait 2 escaliers pour construire le rectangle. Alors si on a des élèves un petit peu plus grands, ce qu'on peut faire, c'est passer à un stade un peu plus abstrait. C'est-à-dire maintenant que vous avez fait ça avec une pyramide de 8 étages, vous pouvez imaginer comment vous feriez avec une pyramide de 9 étages. En hauteur.
En hauteur, ça fera 10.
Voilà, et par là.
Fois 9.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez dit 2 fois la largeur de la pyramide plus 1. Et en fait, ça, c'est important ce que vous avez dit parce que vous avez déjà rendu le calcul plus abstrait. Donc du coup, on peut prendre le nombre qu'on veut à cet endroit-là. Alors là, c'est là que les mathématiciens interviennent. Le nombre qu'on veut, on va l'appeler n. Et donc si la pyramide, elle a n étages, en regardant cet objet, vous pouvez bien imaginer que la largeur va faire n, là où elle faisait 8, que là où on avait mis une pyramide et un étage en plus, on obtient n plus 1 pour la hauteur, et que dans la longueur, là où on avait 2 pyramides et un bloc en plus, on obtient 2 fois n plus 1.
Donc on passe de la géométrie à l'algèbre.
Là, à l'algèbre. Et donc en fait, avec un objet très très concret, c'est pas très difficile de convaincre les élèves que de cette formule qui est totalement abstraite.
Mmh.
J'accueille maintenant notre invité de dernière minute, Leonardo Zeza. Vous êtes vice-président en charge des affaires sociales et santé publique à l'Association amicale des étudiants en pharmacie de Montpellier. Bonjour Leonardo.
Bonjour.
Alors vous partagez ce poste avec Elisabeth Katz qui n'est pas là mais aurait pu être là. Il fallait choisir un des deux, c'est bien ça?
C'est exactement ça.
Alors vous allez nous présenter le Colon Tour qui fait donc halte demain entre 10h et 16h sur le campus de pharmacie. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le Colon Tour?
Le Colon Tour, c'est une journée de sensibilisation très importante qui est organisée par la Ligue contre le cancer à différents endroits. C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement dans toutes les facultés de pharmacie de France grâce à notre association nationale qui a un partenariat avec la Ligue contre le cancer. Et que malheureusement, depuis plusieurs années, nous avons essayé de l'accueillir à la fac et nous n'avons pas pu pour des raisons logistiques. Mais cette année, c'est la bonne. L'élément phare du Colon Tour, c'est le colon gonflable
oui,
de 7 mètres de long.
J'allais y venir, effectivement. Donc, y a, tout au long de la journée, il y a plusieurs actions de sensibilisation qui sont proposées. Mais il y a cette animation phare. Qu'est-ce que c'est, ce colon géant?
Oui, c'est une structure gonflable qui fait 7 mètres de long. Qui sera installé dans le hall de la faculté. Et c'est une sorte, ça a la forme d'un colon, donc c'est une sorte de tunnel dans lequel les participants peuvent passer pour voir comment de l'intérieur on voit un intestin sain, un intestin avec des lésions précancéreuses, avec des polypes, avec des lésions cancéreuses, à quoi ressemble un cancer. Ça permet de donner du concret sur le mot cancer, qui est un mot qu'on utilise dans le langage courant, mais qui a aussi une réalité médicale qui est très précise.
Et à côté donc de ce colon géant, il y aura bien sûr des stands de sensibilisation avec pas mal d'associations présentes, j'imagine.
Tout à fait. Nous avons beaucoup d'associations et d'instances de santé publique qui sont présentes. On a la CPAM, donc l'assurance maladie, qui sera là pour présenter ce que ça veut dire d'un point de vue, on va dire, assurance et... la prise en charge du cancer, que ce soit à travers des soins proposés, des soins remboursés. On a aussi l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui pilote des actions de santé publique, qui sera là. Le CRCDC, qui est le centre responsable du dépistage. En effet, il y a un dépistage du cancer colorectal qui est gratuit et qui est même conseillé à travers des courriers envoyés aux personnes dans les tranches d'âge concernés qu'on récupère en pharmacie. On a aussi d'autres associations comme PNUT, qui est une association qui travaille sur la prévention et qui sera là pour parler pendant une conférence et pendant leur stand de l'impact de la nutrition, du sport, mais aussi de la santé mentale sur le développement du cancer. On a aussi le CHU qui sera présent avec quelques-uns de leurs professeurs. On a l'association SMILE, qui est une association qui travaille sur la santé mentale et qui va parler de l'impact de l'isolement du patient face au diagnostic. Et pour finir, on a l'association Rotaract qui parle du don de la moelle osseuse, qui est une technique phare dans la lutte contre les cancers pour rétablir l'immunité après une chimio, par exemple.
Alors, vous avez parlé notamment du dépistage et donc le Colon Tour, ça s'inscrit dans le cadre de Mars Bleu, qui est le mois de sensibilisation au cancer colorectal et à son dépistage. Cette année, le slogan choisi par la lutte contre le cancer, ça a été « Va chier ». Est-ce que c'est important justement de mettre de l'humour un peu dans ce cancer qui, plus qu'un autre, est frappé par un tabou?
Je pense que sur une dimension de santé publique, il est toujours utile de dédramatiser les choses pour essayer de toucher le plus de personnes et d'utiliser un langage entre gros guillemets « cru ». Plutôt qu'un langage médical qui peut paraître plus froid, et c'est tout aussi important pour ce cancer qui, comme vous l'avez dit, frappe par un tabou, notamment par le fait que beaucoup d'examens nécessitent une coloscopie, un toucher rectal ou des choses comme ça, qui sont souvent stigmatisés, notamment chez les hommes, et qu'il est temps de casser ces tabous.
D'y aller.
Parce que ça sauve des vies.
Tout à fait. Eh ben, je vous remercie beaucoup. On rappelle donc les informations. C'est demain entre 10h et 16h à la faculté de pharmacie. C'est ouvert à tous et toutes
Pour des raisons de logistique et de sécurité, c'est ouvert à toute personne faisant partie de l'Université de Montpellier, que ce soit étudiant ou personnel.
Ça marche. Merci beaucoup et à bientôt.
Je vous en prie, merci.
Peut-être à l'année
à
prochaine
bientôt. Peut-être.
Merci
Au revoir.
Beaucoup.
Bonne journée.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.